Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous êtes candidate de lutte ouvrière. Alors vous êtes en direct de la salle de la Mutualité à Paris où vous allez tenir un meeting. Juste au départ, on a vu ces images là quand on parle de convoi de la liberté, des personnes protestant à la fois contre la vie chère mais également contre les mesures sanitaires. Est-ce que c'est un rassemblement que vous soutenez vous-même ?
Moi, je m'en réjouis parce que, bien sûr, c'est un mélange de revendications, mais il y a une véritable contestation sociale. Voilà, c'est la question des prix de l'essence qui sont devenus inabordables. C'est la question aussi des super profits, hein, des pétroliers. C'est la question de la précarité, des petites pensions de retraite, des bas salaires. Donc, c'est tout cela qui est posé. Et moi, je pense que oui, c'est salutaire. Et tant mieux que ce débat, ces revendications s'invitent dans la campagne parce que là, on parle véritablement des problèmes des femmes et des hommes, des classes populaires.
On le voit là, il y a une réponse policière assez forte. Pour vous, elle est justifiée ?
Bah, écoutez, c'est évident que le gouvernement a envie de tuer dans l'œuf toute contestation. Donc ça, moi, je le dénonce. Je pense qu'il faut justement, c'est précisément ce qui a fait en sorte que ces femmes et ces hommes se sont regroupés parce qu'ils en ont marre de jamais être entendus. Ils en ont marre d'être commandés du matin au soir, de jamais pouvoir faire entendre leurs revendications. Donc en réalité, le gouvernement s'enferme dans une politique qui sera forcément contre-productive.
Alors je le disais à propos de la campagne présidentielle, vous êtes une candidate plutôt bien placée hein, au niveau des parrainages, on en comptabilisait 419. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition aujourd'hui de François Bayrou qui dit bah, finalement il faudrait peut-être aider eh bien, les candidats qui ont moins de signatures afin qu'il y ait véritablement une image hétéroclite du paysage politique au premier tour de l'élection présidentielle?
Moi, ce que je vois, c'est que ces règles que nous avons toujours dénoncées, hein, nous, lutte ouvrière, hein, qui devaient faire obstacle aux candidatures fantaisistes, mais qui, en fait, étaient là pour faire obstacle à des candidatures comme la nôtre, qui se sont durcies hein, au fil du temps. Elles se sont toujours et encore durcies. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes règles se retournent contre un certain nombre de grands candidats, entre guillemets, hein, je dis donc contre certains grands candidats. Bon, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, en tout cas, c'est pas moi qui ai fait ces règles. Je vois que certains sont en train d'en définir de nouvelles, là, à deux mois de l'élection. Bon, dont acte. En tout cas, nous, lutte ouvrière, je peux vous dire que personne ne nous a jamais fait de cadeau et aucun parti. Bayrou ne propose pas de nous donner des parrains. Non, les parrains, eh bien, nous sommes allés les chercher. Et bien heureusement, nous avons pu compter sur le sens du pluralisme d'un certain nombre de maires de petites communes qui, justement, sont attachés aussi à ce que des femmes et des hommes des classes populaires hein, puissent s'exprimer dans cette élection. Je crois qu'il y a aussi une forme de reconnaissance à notre égard que oui, on n'appartient pas à ce monde de politiciens professionnels. Hein, on n'est pas je ne suis pas une candidate estampillée par et choisie ni par Bolloré, ni par Bouygues, ni par Lagardère. Eh bien, il n'empêche que on arrive à se battre et effectivement à se faire entendre. Donc tant mieux.
Alors Nathalie Arthaud, concernant justement la candidature de lutte ouvrière. Vous parlez toujours aujourd'hui, dans vos discours, travailleurs hein, et travailleuses. D'ailleurs, c'est toujours aussi un terme qui avait été, on se souvient, hein, communément mis dans la campagne présidentielle par Aide Laguiller, que vous reprenez aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit le vote ouvrier, c'est vrai qu'une étude IFOP récente parle des intentions de vote pour 2002. On peut établir ce vote ouvrier. Il dit accentue le phénomène du vote ouvrier envers le Rassemblement national. Il atteindrait 45% chez les ouvriers, 42% des employés de vote en faveur du RN. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, de ce monde ouvrier ou de ce monde des employés qui, aujourd'hui, se tourne davantage vers Marine Le Pen que vers une candidature lutte ouvrière ou une candidature à gauche ?
D'abord, vous oubliez tous ceux qui s'abstiennent, tous ceux qui sont tellement écœurés justement par cette vie politicienne, hein, qui ne s'intéresse plus même à la politique. Vous oubliez aussi tous les travailleurs, ceux qui sont à la retraite, qui sont étrangers, qui n'ont pas le droit de vote. Donc vous voyez, ça fait pas le monde ouvrier tout cela. Hein. Alors bon, il y en a un certain nombre effectivement qui sont suffisamment découragés, qui se résignent hein, pour tomber dans le piège de la division, tomber dans le piège des boucs émissaires. Mais moi, je leur dis, voilà, non, la réalité. réalité, c'est que voilà, le monde du travail doit s'organiser derrière ses revendications. Ses revendications, ce sont de pouvoir vivre de son travail, d'en avoir un déjà, de pouvoir vivre de son salaire, de pas être toujours dépendant des aides, d'une prime d'activité ou je ne sais quoi. Donc c'est un combat qu'on a à mener effectivement contre aujourd'hui le grand patronat. Quand on voit tout l'argent qui s'accumule à un pôle à un moment donné, il faut dire ça suffit. Il faut dire ça suffit, il faut s'organiser. Alors bien sûr, moi j'appelle à un vote de combativité hein, quand Marine Le Pen ou d'autres sont le vote de la résignation finalement. Alors c'est plus compliqué, mais clairement, vous savez, je pense que les aides-soignantes, les infirmières, toutes ces premières lignes ont pu le mesurer. Hein, pour se faire respecter dans cette société, il n'y a qu'une chose, il faut s'organiser, il faut se battre collectivement.
Alors, il y a eu un exemple hein, cette semaine avec l'exemple de Total avec un bénéfice qui annonce un bénéfice record de 16 milliards d'euros. Hein, c'était jeudi. Ces grandes entreprises françaises qui ont connu eh bien, une très bonne année 2021, permis entre autres aussi par les aides de l'État hein, qui profitent, bah, c'est vrai, aux actionnaires plus qu'aux salariés. Aujourd'hui, c'est un sujet pour vous, ces super profits?
Oui, bien sûr, c'est un sujet parce que vous avez raison que ce sont les aides de l'État, mais pas que. C'est aussi le produit de l'exploitation. C'est-à-dire que ce sont les mêmes grandes entreprises, les mêmes grands actionnaires qui ensuite vont expliquer aux salariés qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Voilà, qui doivent forcément dégrader les conditions de travail, aggraver les cadences. Et puis, vous savez, les 13 pétroliers, en l'occurrence, là, ils profitent quand même sacrément de l'augmentation du prix de l'essence. Ça aussi, il faut le dire. Hein, donc, vous voyez, ils gagnent sur tous les plans. Donc, moi, j'appelle le monde du travail à se relever et à dire, justement, nous sommes les essentiels. Nous portons la société sur nos épaules. Nous la faisons fonctionner. Donc les salaires doivent passer avant les profits. Les emplois doivent passer avant les dividendes. Nos conditions de travail doivent passer avant les fortunes de quelques-uns. Voilà ce que je mets en avant dans cette campagne. Et j'espère que beaucoup auront à cœur de se regrouper derrière ce vote, justement.
Jean Castex, cette semaine, a demandé aux entreprises de réfléchir à une augmentation de salaire. C'est-à-dire que ça va dans le bon sens?
Oh, vous savez, les augmentations de salaire, quand on les a obtenues, c'est qu'on les a arrachées. Hein. C'est qu'il y a eu des grèves, qu'il y a eu des mobilisations. Moi, j'observe qu'aujourd'hui, que vous soyez dans une petite, mais même dans les grandes entreprises hein, qui annoncent des super profits. Je pense à Dassault, je pense au groupe Muliez, le groupe où il y a Leroy Merlin, je pense à Carrefour, je pense à Peugeot. Dans toutes ces entreprises qui annoncent des bénéfices, mais alors exceptionnels, eh bien, je peux vous dire que la moindre revendication salariale, de toute façon, hein, elle est considérée comme irraisonnable. Voilà. Il n'y a rien de raisonnable, il n'y a rien de crédible, il n'y a rien de possible quand on demande au grand patronat. Donc non, c'est une question de rapport de force. Vraiment, c'est une question de rapport de force. Moi, ça me fait penser à mai 68. Vous savez, mai 68, eh bien, on ne pouvait pas augmenter les salaires. Et puis, une grève générale après, quelques millions de manifestants après, eh bien, les salaires et le SMIC a été augmenté de 35%, voyez-vous, de 35%. Bah, voilà, voilà, c'est la voie à suivre. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de formule magique. Il va falloir se battre pour revendiquer notre dû.
Mais Nathalie Arthaud, en 1968, la situation économique était tout de même meilleure au niveau de l'emploi, au niveau des entreprises.
Elle était meilleure, mais écoutez, vous avez entendu quand même, comme moi, le gouvernement nous expliquer que la situation économique était géniale. Qu'elle était géniale, qu'il y avait eu une croissance comme jamais vue depuis 52 ans. Hein, moi, je l'ai entendu, le gouvernement. J'ai entendu Bruno Le Maire nous expliquer tout cela. Alors moi, je dis, bah écoutez, puisque le gouvernement nous dit que la croissance, c'est du jamais vu depuis 52 ans, eh bien, les augmentations de salaire et les pensions de retraite doivent augmenter comme jamais depuis 52 ans. Voilà, tout simple.
Alors, Nathalie Arthaud, en quoi le programme finalement de lutte ouvrière aujourd'hui il correspond aussi à 2022 parce qu'on sait qu'il y a un logiciel programmatique chez lutte ouvrière qui ressemble finalement aux autres années, aux autres élections présidentielles. En quoi aujourd'hui ça correspond par exemple notamment sur l'environnement aujourd'hui? Est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez un volet environnement dans votre programme?
D'abord, je voudrais dire que si notre logiciel met toujours en avant des augmentations de salaire et de lutter contre le chômage, c'est aussi parce que les inégalités et le chômage de masse, c'est un fléau aujourd'hui. Et ça, c'est le logiciel capitaliste. Par ailleurs, sur le terrain écologique, bah oui, bien sûr que nous portons un programme écologique et je dirais même le plus conséquent qui soit. Parce que vous voyez, nous pensons que tous ces trusts qui ont pollué la planète, qui sont complètement irresponsables, qui ne pensent qu'à leur cours boursier, hein, et puis après eux, le déluge, eh bien nous sommes pour les expropriés. Nous sommes pour les exproprier, nous sommes pour les tenir responsables de toute cette catastrophe climatique. Et nous sommes donc pour prendre en main collectivement ces grandes multinationales, pour les faire fonctionner de façon unifiée, sans cette concurrence, pour répondre d'abord aux besoins des gens et puis pour respecter évidemment la planète et l'environnement. Donc bien sûr que ça fait partie des choses dont je parlerai beaucoup tout à l'heure dans mon meeting à 15h.
Cette semaine d'ailleurs, à propos de l'énergie et de l'environnement, Emmanuel Macron a par exemple beaucoup parlé de relance du nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez aujourd'hui, par exemple le nucléaire, les EPR, ou vous êtes vous-même pour une sortie du nucléaire ?
Mais vous voyez, Emmanuel Macron a relancé le nucléaire. Alors, il a commencé son mandat en fermant Fessenheim. Hein. Alors bon, c'est une girouette sur la question. Hein. C'est une vraie girouette sur la question. En fait, pourquoi il a relancé le nucléaire ? Parce que les capitalistes de la filière ont des intérêts. Parce que c'est une question de gros sous. Ils ne raisonnent pas du tout en fonction des besoins, en fonction de la sécurité, en fonction de ce qui est bon pour le climat. Hein. Ils raisonnent en fonction des intérêts, effectivement, du monde capitaliste. En plus, donc, comme maintenant, c'est le tout électrique, et qu'il a promis effectivement aux constructeurs de refaire tout le parc électrique avec des voitures électriques, alors même qu'ils savent pas ce qu'on va faire avec les batteries, etc., etc. Bah oui, bien sûr, il faut multiplier la production d'électricité par deux. Alors voyez, tout ça, tous ces choix-là, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont guidés par des affaires de gros sous, mais ils ne sont pas guidés par nos intérêts à tous, par l'avenir et la préservation de la planète. Et puis, je dois avouer que bon, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que voilà, il nous garantissait la sérénité pour l'avenir. Mais moi, franchement, ça me rassure pas. Ça me rassure pas cette fuite en avant là vers le nucléaire, parce que quand on voit ce qui se passe avec l'EPR de Flamanville, on devrait quand même se poser quelques questions. Hein. Flamanville, il a 10 ans de retard et c'est 4 fois plus cher que prévu. En réalité, c'est un fiasco. Alors moi, je sais même pas. Et est-ce que d'ailleurs Macron lui-même le sait ? Est-ce qu'ils sont capables vraiment de les fabriquer, ces EPR ?
Et pourtant, ça créerait de l'emploi. Donc ça satisferait aussi beaucoup de gens.
Mais ça créerait de l'emploi. Mais écoutez, des idées pour créer de l'emploi, je peux vous dire que j'en ai beaucoup. J'en ai énormément. Et puis vous savez, je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre qu'il y a des centaines de milliers d'emplois à créer dans les hôpitaux publics, dans les EHPAD, dans l'éducation. Et puis il faudrait réduire le temps de travail, répartir le travail entre tous. Vous savez, dans ces entreprises qui annoncent des super profits, l'autre problème, c'est que les cadences se sont aggravées, c'est que la surcharge de travail est énorme. Il y a des femmes et des hommes qui se tuent aujourd'hui au boulot, littéralement, qui perdent leur santé parce que c'est un rythme de travail qui est délirant. Donc je peux vous dire que des emplois à créer, il y en a, à condition qu'on soit prêt effectivement à empiéter sur les profits du grand patronat. Mais des emplois à créer, c'est pas le problème. Mais créons-les pour qu'ils répondent vraiment aux besoins de la population et pas pour faire tout et n'importe quoi.
Une chose, Nathalie Arthaud, juste derrière vous, il y a le logo de Lutte Ouvrière, on y voit la couleur rouge, la faucille et le marteau. Ce sont toujours des symbole important pour vous en 2022.
Oui, bien sûr, plus que jamais, il faut que les travailleurs se regroupent derrière leur politique, derrière leur propre drapeau. Un drapeau qui correspond, une politique qui correspond à leurs intérêts. Voilà. Et leurs intérêts, c'est non seulement de se battre au jour le jour pour leur beefsteak, j'ai envie de dire, pour leurs conditions de vie, pour leurs conditions de travail, mais leur intérêt, c'est aussi de contester cette classe capitaliste qui nous mène dans le mur à tous les niveaux, avec à la fois cette accumulation folle à un pôle, mais qui se traduit en une spéculation tout aussi folle et qui menace de nous exposer à la figure tous les jours, mais qui se traduit, comme vous l'avez dit, par la crise climatique, qui se traduit aussi par ces tensions guerrières, par ces menaces de guerre qui se rapprochent minute après minute. Donc voilà, cette conscience que les travailleurs, finalement, eh bien, ils portent une politique, un programme, des perspectives aussi pour changer toute la société. Parce que nous pensons que ce capitalisme, il faut le renverser, que les travailleurs, eh bien, ils en sont capables. Vous savez, ils font fonctionner toute la société. Eh bien, nous disons que les travailleurs au pouvoir, ils la feraient, ils la dirigeraient, ils la géreraient mille fois mieux.
Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Arthaud. Vous étiez en direct de la mutualité. Vous allez tenir un meeting. Merci d'avoir répondu aux questions de LCI.
Merci.